Chapitre 22. Dante mangeait un bol de céréales devant les informations du soir. Il était question des violences qui embrasaient les rues de la ville. Dante songea que la violence était absolument partout, et qu'il n'y avait aucune raison que les rues échappent à la règle. Il plia son auriculaire sectionné. La douleur était toujours présente, mais la blessure cicatrisait bien. Le médecin lui avait expliqué que les points de suture se résorberaient tout seuls et qu'il n'aurait pas à retourner à l'hôpital. Lorsque Dante avait appelé, parce qu'il avait l'impression que la plaie suintait beaucoup, l'infirmière qu'il avait eue au téléphone n'avait pas semblé plus inquiète que ça. « C'est tout à fait normal. Désinfectez et remettez de la gaze. » Cela ne tenait pas debout. Mais Dante était persuadé que la véritable raison pour laquelle les soignants ne voulaient pas le revoir était qu'ils avaient parlé de lui après l'avoir recousu et qu'ils l'avaient tous trouvé pathétique et agaçant. Il avala une cuillerée du mélange de mini chamallow, de lait et d'avoine grillée. Ce n'était pas la première fois qu'il avait le sentiment d'être considéré comme un raté, auquel on préférait ne pas avoir affaire. Parfois, il avait l'impression que même son frère et sa sœur l'évitaient. Pourtant, il savait que Roman risquait sa vie pour essayer de réparer son erreur. Et il était convaincu que Nevea aurait été prête à tuer n'importe qui pour le protéger. Il avala une autre cuillerée. Lors de son court séjour en cure de désintoxication, les psys avaient parlé de pensées intrusives. Dante trouvait qu'elles étaient surtout pragmatiques, car s'il lui arrivait de se tromper, sa perception était quand même souvent justifiée. Il s'était donc efforcé de se montrer plus distant, plus discret, pour se rendre compte assez rapidement que Nevea et Roman lui manquaient. Roman lui manquait tellement que plusieurs semaines avant le fiasco avec Torrent et Tranquil, sa connerie la plus monumentale donc, il avait envisagé de descendre quelques jours à Atlanta. Hélas, les pensées justifiées s'étaient aussitôt remises à le harceler et il s'était ravisé. Il s'était dit que ce serait l'occasion pour Rome et lui de passer un peu de bon temps. D'une manière générale, les femmes trouvaient son frère assez agréable à regarder. Mais dès l'instant où elles discutaient avec lui, elles étaient comme hypnotisées. Il faut dire qu'il était capable de parler de tout et n'importe quoi. Quel que soit le sujet qui arrivait sur la table, Roman savait quelque chose dessus. Et ce n'était pas du bluff. Dante pouvait en témoigner. Un jour, il l'avait vu dresser la liste de ses 10 albums de hip-hop préférés de tous les temps, avant d'en briller sur les différentes espèces d'escargots et les manières de les cuisiner. En revanche, si personne ne l'interrompait, il y avait un risque qu'il se mette à disserter trop longtemps et que les femmes qu'il avait réussi à attirer finissent par piquer du nez. « C'est pas ta faute, t'es trop romantique !» l'avait raillé Dante, un soir où l'enthousiasme de son aîné pour les roulements à billes avait fait fuir une fille particulièrement sexy. Et Roman, gentiment vexé, lui avait donné un petit coup de poing dans l'épaule. Dante termina ses céréales. Il avait beau se moquer de Roman, il avait une grande admiration pour lui. Il s'imaginait souvent comme le meilleur ami de Matt Damon, dans le film où celui-ci joue un génie des maths. Bref, son frère était vraiment d'une intelligence rare. Dante déposa son bol dans l'évier. Nevea était à l'étage, dans sa chambre. En passant devant la porte, il avait vu qu'elle était plongée dans la lecture de documents qu'elle avait sortis d'un carton. Elle n'avait pas expliqué ce dont il s'agissait. Et Dante ne lui avait pas posé de questions. Mais elle lui avait paru aussi concentrée que si elle révisait pour un examen capital. Roman était avec Jay. De l'avis de Dante, cette fille était parfaite pour son frère. Une chose était certaine, il s'était bien trouvé. Deux geeks. Après la fusillade dans la voiture, Rome et elle avaient discuté des assassinats célèbres. Ils connaissaient même les dates. « Si c'est ça votre meilleure technique de drague, je comprends pas comment vous faites pour choper. » s'était esclaffé Dante, et Roman s'était retourné pour faire mine de le gifler. À cet instant, Dante avait oublié qu'il devait une somme d'argent colossale à deux cinglés assoiffés de sang. L'espace d'une demi-seconde, ils étaient deux frères traversant la ville en compagnie d'une femme magnifique. Dante tira un couteau de cuisine du bloc posé sur le plan de travail. La lame était tranchante comme un rasoir. Keith Carruthers n'avait peut-être pas la relation la plus saine qui soit avec ses enfants, mais il aimait que les assiettes soient propres et les couteaux affûtés. Dante se demanda si son père laisserait traîner autant d'objets aiguisés dans la maison, s'il était au courant des pensées qui obsédaient son fils, qu'elles soient intrusives ou justifiées. Dante passa le dos de la lame sur son poignet et songea que personne ne serait surpris s'il allait au bout. Oh, ses proches le pleureraient, bien sûr. C'est ce qu'on fait quand on perd un membre de sa famille. Mais ne serait-il pas aussi un peu soulagé? Enfin, il n'y aurait plus à s'en faire pour Dante. Un poing en moins sur leurs épaules. Il retourna le couteau afin que le tranchant soit au contact de son poignet et exerça une légère pression, suffisante pour que la lame appuie sur la peau, pas assez pour qu'elle la traverse. Dante ferma les yeux. Il ne croyait pas qu'il reverrait sa mère s'il se taillait les veines. Et combien même, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire après toutes ces années? C'est alors qu'il entendit une clé s'introduire dans la serrure de l'entrée. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit et Roman apparut sur le seuil, une boîte à pizza à la main. Dante se dépêcha de laisser tomber le couteau dans l'évier. « Je nous ai pris une pizza !» annonça Roman. « Ah, j'ai cru que c'était un poulet rôti !» se moqua Dante. Son frère leva les yeux au ciel, un sourire aux lèvres. « Moitié pepperoni, moitié tous les autres ingrédients, » précisa-t-il en posant la boîte sur la table de la cuisine. « C'est un resto que Jem a conseillé. En même temps, il n'y en a que deux, Arturo's et Dolson's. Et je sais qu'elle a pas recommandé Arturo's, vu que personne va là-bas, à part la semaine où Dolson's ferme pour le séjour en famille annuel à Las Vegas. » Dante ouvrit la boîte et se servit. T'es la seule personne qui trouve pas ça bizarre que j'aime bien quand il y a tous les ingrédients possibles, y compris l'ananas, ajouta-t-il. Je trouve ça bizarre, mais j'ai l'habitude, rétorqua Roman, en mordant dans sa part 100% pepperoni. Merci, dit Dante. Il regarda Roman. Il y a mille manières de mourir, pensa-t-il. Mais parfois, il suffit d'un petit rien pour avoir envie de vivre. Ton frère qui se souvient du genre de pizza que tu préfères, par exemple. Roman sentit la vibration de son téléphone. Il se redressa, entr'ouvrit les yeux et après s'être frotté le visage, il sortit l'appareil de sa poche. Il vit l'heure avant de se rendre compte de qui l'appelait. 2 heures. En début de soirée, il avait retrouvé Jay dans un bar qu'elle aimait bien, à Jefferson Run. Puis, ils étaient rentrés chez elle, et comme elle devait se lever tôt le lendemain et qu'ils ne pouvaient pas passer la nuit là-bas, ils avaient profité des quelques heures qu'ils avaient devant eux pour vérifier si l'alchimie torride qui avait opéré entre la veille n'était due qu'à un heureux concours de circonstances. Roman avait été agréablement surpris de constater que ce n'était pas le cas. Il avait encore des résidus de cire fondue sur le torse, malgré la douche qu'ils avaient prise ensemble. Ou peut-être que c'était justement parce qu'ils s'étaient douchés ensemble qu'ils n'avaient pas été très attentifs. Cela n'avait pas d'importance. Il était heureux d'apprendre à connaître Jay. Heureux de ne pas avoir à dissimuler les pans de sa sexualité qu'il ne révélait d'ordinaire qu'à des professionnels aguerris. Et il aurait été heureux de discuter avec elle à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Malheureusement, ce n'était pas Jay qui l'appelait. Il vit les initiales YB s'afficher sur l'écran. Il lui fallut un instant avant de se souvenir qu'il s'agissait de Yellow Boy. « Allô ?»«
2234, Falmouth Road »,
indiqua son interlocuteur.
« C'est dans le comté de Warren. »
Roman avait une excellente mémoire des voix, et il comprit tout de suite que ce n'était pas Yellow Boy qui lui parlait, mais Tranquil. « Est-ce que c'est l'adresse de la ferme ?»«
Me force pas à venir te chercher »,
grogna Tranquil, et il raccrocha. Roman se leva du fauteuil et s'approcha du canapé. Il secoua légèrement Dante pour le réveiller.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda celui-ci.
« Écoute-moi bien. Il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Torrent et Tranquil à la ferme. Si jamais je reviens pas, appelle Khalil et dis-lui de suivre le plan A. Dis-lui aussi qu'il peut récupérer tout ce qu'il y a dans mon coffre. Il connaît la combinaison. Il s'occupera de vous faire quitter la ville, à Nevea et à toi. »
Roman sortit le portable prépayé de sa poche et le tendit à Dante, qui se redressa d'un coup.
« De quoi tu parles, Rome? Tu peux pas aller là-bas? Putain, c'était sûr que ça marcherait pas. Est-ce que t'as un flingue au moins? N'y va pas, je t'en supplie. Chaque fois qu'on retrouve un pauvre type qui est passé par la ferme, on dirait qu'il s'est fait attaquer par une meute de loups-garous. N'y va pas. Ou alors tant pis, je t'accompagne.
Roman posa les mains sur les frêles épaules de son frère.
Non, Dante, j'y vais seul. S'il m'arrive quelque chose, ce sera à toi et Khalil de finir ce qu'on a commencé. Regarde-moi. S'ils avaient l'intention de me tuer, ils ne me proposeraient pas de me rendre de moi-même à ma propre exécution. Je suis sûr que c'est du bluff, mais au cas où, je préfère te prévenir.
Roman se tut. Nevea était sur le palier.
Qu'est-ce qui se passe encore ?
Demanda-t-elle.
Et pas de mensonge cette fois.
Elle portait un t-shirt et un bas de survêtement, et avait un foulard dans les cheveux. Roman inspira bruyamment. Elle ressemblait tellement à leur mère. On aurait dit que Bonita était sortie de sa chambre pour les réprimander.
Il faut que je rattrape une connerie de Dante, répondit Roman. Ce sera rapide, un saut à faire au distributeur.
Mi-vérité, mi-mensonge.
On t'accompagne, dit Nevea. Certainement pas. Je tiens pas à ce qu'on surprenne la gérante du crématorium Carruthers en train de donner de l'argent à un dealer à 2 heures du matin. Te fous pas de moi, Rome. Je t'ai entendu parler de pas revenir. Si c'est louche, t'appelles les flics, point. Imagine si c'est les gens qui ont crevé nos pneus ou qui ont percuté la voiture de papa. Je veux pas te perdre. Je t'assure que c'est 3 fois rien, Neve. Je serai de retour dans 1 heure, promis. Je te préviens, si t'es pas là à 3h30, je téléphone à la police et je dis que ça fait 24 heures que t'as disparu.
Elle secoua la tête et remonta à l'étage. Roman prit les clés de la Challenger. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Dante, » murmura-t-il.
« Fais pas ça, Rome. »
« Ça va aller, » promit Roman, en étreignant son frère avec un seul bras. « Ils vont pas se débarrasser de la poule aux œufs d'or. »
« Et s'ils pensent pas que t'es la poule aux œufs d'or ? » « S'ils te prennent juste pour un putain de pigeon ?»«
Dans tous les cas, je pourrais toujours m'enfuir à tire d'aile. » Dante serra Roman contre lui.
Évite ce genre de trait d'esprit avec eux,
murmura-t-il, la tête enfouie dans le cou de son frère. La Challenger filant à travers la nuit, Roman franchit le pont qui séparait Jefferson Run du comté de Warren. Les sièges étaient ajustables au niveau des lombaires, on pouvait régler leur température au degré près via l'écran de contrôle du tableau de bord. Mais aucune des positions qu'il essaya ne rendit plus naturelle la sensation du pistolet dans le bas de son dos. Il avait suivi la suggestion de Dante en se disant que si les choses se passaient mal, il aurait au moins l'occasion de se défendre. Lors de ses 2 derniers rendez-vous avec Torrent, on ne l'avait pas fouillé. À l'évidence, les BBB ne le considéraient pas comme une menace, ce qui lui allait très bien. Qu'il continue à voir en lui un paillasson qui subissait toutes les humiliations sans broncher. À la fac, beaucoup d'étudiants en économie lisaient « L'art de la guerre ». En pensant que cela leur donnerait l'air plus intéressant. Roman, lui, trouvait que les principes évoqués par Sun Tzu relevaient surtout du bon sens. Feindre la faiblesse pour masquer sa force. Il suffisait de s'être battu 1 fois dans sa vie pour savoir que c'était le meilleur moyen de surprendre son adversaire. Connaître son ennemi pour mieux se connaître soi-même, encore une évidence. Roman préférait un autre classique de la stratégie militaire, venu lui aussi d'Asie. Le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. C'était son colloque en 2e année qui lui en avait donné un exemplaire. Un soir qu'il n'arrivait pas à réviser, Roman avait commencé à le lire et en 2 heures, il l'avait terminé. Le livre faisait à peine 150 pages, mais ses pages recelaient des pépites de sagesse qu'il n'avait jamais oubliées. D'une chose, apprends-en 10 000 autres, récita-t-il, alors que le GPS lui indiquait d'emprunter un chemin de terre à l'entrée duquel était planté un panneau rouillé portant l'inscription « Falmos Road ». La chose que connaissait le mieux Roman était l'argent, et elle lui permettait de comprendre le fonctionnement d'hommes comme Torrent. Roman avait vu les engrenages se mettre à tourner dans la tête du gangster lorsqu'il avait évoqué les millions de dollars à gagner. S'il ignorait la raison de cette invitation tardive, il avait une certitude. Il ne s'agissait pas de lui loger une balle dans le crâne pour le regarder se vider de son sang. Il en était convaincu, parce qu'il aurait été contraire à la logique de l'argent de le tuer.
si seulement il pouvait aussi convaincre ses bras et ses jambes, afin qu'ils arrêtent de trembler. Alors que la lune gibbeuse émergeait de l'obscurité, Roman vit se dresser au bout du chemin de terre une énorme maison à deux étages, flanquée d'une longue dépendance qui devait être peinte en rouge, mais qui paraissait rose pâle à la lueur des phares. Plus à l'est s'étendait un champ. Il n'en était pas certain à 100%, mais aux larges feuilles qui s'agitaient dans la brise, il lui sembla qu'il s'agissait d'une culture de choux cavaliers. Son grand-père entretenait un potager à l'époque, mais cela remontait à plusieurs années. Il avait complètement délaissé son jardin après la disparition de sa fille, la mère de Roman donc. Il ne parlait jamais d'elle ni du manque qu'il ressentait, mais il était évident que sa peine était immense. Devant la maison était garée une BMW noire et deux vieilles berlines de luxe refaites à neuf et entièrement customisées, une Cadillac et une Mercury Marquis dont les jantes étaient tellement démesurées que chacune aurait pu servir de table pour une famille de cinq personnes. Roman éteignit ses phares et coupa le contact. En un instant, il se retrouva plongé dans une obscurité complète que même la lune ne parvenait pas à percer. Il avait l'impression d'avoir fermé les yeux. Soudain, quelqu'un tapota sur la portière passager et Roman sursauta, en se félicitant de ne pas avoir crié. Il baissa la vitre et vit D-Train qui le regardait, l'air sévère. « Suis-moi !» ordonna le gangster. Encore un membre des BBB qui le traitait comme un vulgaire laquais. La mâchoire serrée, Roman descendit de la voiture. Alors qu'il se dirigeait vers la longue dépendance, il remarqua un concert d'aboiements et de gémissements de plus en plus prononcés. Des chiens. Beaucoup de chiens. Et des gros, s'il se fiait au volume sonore et au registre particulièrement grave. Il repensa au cadavre aux jambes déchiquetées dont lui avait parlé Weldon. D-Train entra par une porte annexe qui se trouvait à gauche de la double porte principale de la dépendance. Roman lui emboîta le pas et pénétra dans ce qui n'était autre qu'un chenil, où il découvrit bientôt huit grandes cages alignées face à face dans le sens de la longueur. Au sol, de la sciure. Derrière les grilles, des pitbulls massifs qui aboyaient, gémissaient, hurlaient à la mort et haletaient. Roman suivit D-Train jusqu'au fond du chenil. Malgré les nombreux reportages à charge qu'il avait pu voir enfant, il avait toujours trouvé que la mauvaise réputation des pitbulls était infondée. C'étaient des chiens puissants, certes, mais pas particulièrement plus que d'autres de la même corpulence. Roman savait qu'intrinsèquement, les pitbulls n'étaient pas des animaux violents ou agressifs. Leur comportement reflétait la manière dont on les traitait. Si ces bêtes appartenaient à Torrent et Tranquil, il ne pouvait qu'imaginer le genre d'éducation qu'ils avaient reçu. Il suivit D-Train jusqu'à une partie ouverte, tout au fond, où ils trouvèrent Torrent accroupi devant un pitbull au dos gris et au ventre blanc, pourvu d'une tête énorme. Le gangster grattait l'animal derrière les oreilles et lui flattait les flancs, tout en lui parlant d'une voix cajoleuse qui, dans sa bouche, fit à Roman l'effet d'une langue étrangère. Tranquil était appuyé à un mur, buvant une bière dans une bouteille brune. À ses pieds étaient couchés deux des plus gros chiens que Roman avait jamais vus. De là où il était placé, il ne pouvait distinguer que les deux énormes corps gris-brun étendus de tout leur long et les deux lourdes queues qui frappaient le sol en faisant voler des nuages de poussière et de sciure.
« Ça, c'est une brave bête, ça !»
susurra Torrent.
« Mais tu vas arrêter de me lécher en douille »
fit-il mine de s'agacer, lorsque le molosse posa les pattes sur le torse du gangster pour lui donner un coup de langue sur la joue.
« Et puis, il va falloir te trouver un travail, mon grand. Tu manges trop !»
Torrent embrassa le chien sur la tête et se leva.
« Ramène-le à sa cage !»
ordonna-t-il à Eddie Munsta, qui tenait la laisse de l'animal.
« Et vérifie qu'il a assez d'eau. C'est qu'il a toujours soif, ce bon vieux Zoulou. Pas vraiment beau !»
ajouta-t-il, en tapotant une dernière fois le crâne du pitbull. Roman n'en croyait pas ses yeux. Il avait l'impression d'observer un loup qui s'était mis au tricot. Son cerveau refusait d'admettre que le dangereux psychopathe qui lui avait fracassé les dents, et cet homme qui donnait autant d'amour à son chien pouvait être une seule et même personne.
« C'est mes bébés, » dit Torrent.
« Ils sont magnifiques, » le complimenta Roman.
Les gens pensent qu'on les dresse au combat, mais c'est pas mon truc. J'aime les chiens. C'est des animaux loyaux. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu sois leur ami. Et pour te prouver leur amour, ils sauteront à la gorge du premier fils de pute qui osera s'en prendre à toi. Même un chihuahua se battra jusqu'à la mort pour défendre son maître. Si tu restes immobile un peu trop longtemps, un chat finira par te bouffer, alors qu'un chien se laissera crever de faim en montant la garde devant ton cadavre. Si tu veux mon avis, il y a trop de chats dans ce milieu, et pas assez de clébards. D-Train attendit que son chef ait terminé son monologue pour se diriger vers un objet volumineux que Roman n'avait pas encore remarqué et retirer la bâche bleue qui le recouvrait. Yellow Boy était assis sur un vieux fauteuil en bois dont le dossier haut formait une espèce de pointe qui rappelait un clocher d'église. Sa tête était inclinée sur la droite, alors que le reste de son corps était avachi sur la gauche. À ses pieds, une flaque de sang rouge sombre dessinait un demi-cercle. Roman remarqua que la seule chose qui l'empêchait de basculer vers l'avant était les colliers de serrage qui maintenaient ses poignets attachés aux accoudoirs. Les deux molosses étendus devant Tranquil se levèrent et s'approchèrent du fauteuil. Roman vit alors qu'ils avaient le museau teinté de rouge. L'un d'eux se laissa tomber sur le dos pour donner un coup de patte à l'autre. Ils jouaient, comme des chiots. Les pitbulls avaient arraché la majeure partie des mollets de Yellow Boy. Ne restaient que de vagues morceaux de chair qui pendaient sous les lambeaux de son jean imbibé de sang, et deux tibias et deux péronnés présentant chacun de multiples traces de morsures. Roman voulut détourner le regard, mais ses yeux étaient attirés par le cadavre comme des mouches par un étron. « Il a chialé comme un môme en appelant sa mère », déclara Tranquil, en tapotant la nuque d'un des deux molosses. « Ils finissent toujours par appeler leur mère. » Torrent s'avança vers Roman. « Et surtout, il a craché le morceau », ajouta-t-il. Roman se raidit comme une planche et resta silencieux. S'il y avait bien une chose qu'il avait apprise dans sa carrière, c'était à ne jamais répondre à une question qu'on ne lui avait pas posée. Il se passa la langue sur les lèvres en regrettant de ne pas avoir dissimulé le pistolet à l'avant de son pantalon plutôt qu'à l'arrière, sous son t-shirt et sa veste en cuir. Enfin, il décida que dans cette situation, il valait mieux être l'interrogateur que l'interrogé. « Quel morceau ?» demanda-t-il. Torrent s'approcha du cadavre, de sorte qu'il se trouvait désormais face à Roman. Celui-ci pouvait entendre le frottement imperceptible des baskets du gangster sur le sol poussiéreux. Du moins, il croyait l'entendre. La peur avait aiguisé tous ses sens. Il pouvait sentir le parfum de D-Train, l'odeur métallique du sang, l'arôme musqué des chiens. Tout cela se mélangeait sur sa langue, avec le goût boisé de la sciure. « Ce fils de pute était en contact avec le Ghoston Crew », révéla Torrent. « Quand ils ont essayé de me descendre samedi soir, Yellow Boy était le seul de notre bande à pas être dans les parages. Apparemment, ils lui ont offert 50 000 $ pour qu'il leur lâche le nom de notre fournisseur. » « C'est donc là qu'il était parti cette nuit-là », songea Roman. Torrent s'approcha un peu plus du corps mutilé. Ses épaules semblaient rouler sous les manches de son t-shirt. Il baissa la tête et mit les mains dans le dos. Si Roman n'avait pas craint pour sa vie, le narcissisme de Torrent aurait pu le faire sourire. Car ce soir-là, quand Khalil avait redécoré la façade du Kingdom au pistolet mitrailleur, il y avait une centaine de personnes sur le trottoir. Bien sûr que Torrent constituait la cible la plus évidente, mais potentiellement, il n'était pas la seule. Dans sa tête, pourtant, il n'y avait que lui qui pouvait être visé. « Je connais Yellow Boy depuis qu'il a 17 ans », poursuivit le chef des BBB. Quand il était petit, son père s'est fait buter devant un bureau d'encaissement de chèques. À l'époque où je l'ai rencontré, il venait d'avoir un gosse. Un gamin qui était tout le temps malade. Alors on l'a pris sous notre aile, on lui a filé du boulot. Et comment il nous remercie ? En nous trahissant avec le Ghoston Crew, soi-disant qu'il avait besoin d'argent. Comme si on le faisait pas assez croquer. » Torrent se redressa. « Abruti », conclut-il pour lui-même, avant de se tourner vers Roman. « On va racheter une boîte de BTP et une boîte de démolition. Pour le matériel, on commandera par ces deux entreprises et on enverra la facture à la ville. Toi, tu seras notre façade.
notre représentant légal, et tu prendras ta commission habituelle. Par contre, j'exige de voir à la fois les comptes officiels et les vrais comptes. » En trois pas, Torrent franchit la distance qui les séparait. « Ce bouffon était un frère pour moi, mais comme tu peux le constater, j'ai pas hésité à le filer à bouffer à Ross et Rosie, » ajouta-t-il en désignant le cadavre de Yellow Boy. « Tu me l'as fait à l'envers, tu te retrouveras à sa place. Et crois pas que tu peux essayer de me baiser sans que je m'en aperçoive. Je sais tout. Tu seras assis dans ce fauteuil à te demander où sont passées tes couilles, et tu te videras de ton sang, comme Yellow. » Le gangster claqua des doigts, et les deux molosses s'accroupirent à ses pieds pour se laisser caresser la tête. Ils fixaient Roman de leurs yeux jaunes avec une telle intensité que celui-ci se demanda s'il pouvait voir à travers lui. « La seule différence, c'est que tu devras d'abord regarder ton frère et ta sœur subir le même sort, » ajouta Torrent. « D-Train et Eddie vont t'aider à charger Yellow dans le coffre. » Plus tard, alors qu'il prenait la route du crématorium après avoir franchi le pont, Roman repensa à une citation de l'art de la guerre qui lui paraissait de circonstance. « L'opportunité de défaire l'ennemi est fournie par l'ennemi lui-même. » « Tu viens de me tendre la pelle avec laquelle t'enterrer, enfoiré, » dit-il à voix haute. Il regarda à travers le pare-brise la nuit qui s'étirait devant lui telle une fresque, où les lumières de la ville seraient les milliers d'yeux perpétuellement ouverts d'un dieu agonisant, qui, pour survivre, avait besoin de s'abreuver de sang, de larmes et de souffrances. Pour le soulager, ne serait-ce que de manière temporaire, Roman était décidé à lui sacrifier Torrent et Tranquil. Un roi sans reine et sans pion n'est qu'un morceau de bois posé sur une planche, songea-t-il. Cette citation, il la tenait de son père.